La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous jusqu'à midi, encore une heure ensemble en votre compagnie. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en podcast. Les nombreux débats déjà évoqués sont déjà en ligne. N'hésitez pas, précipitez-vous sur ce podcast. Avec ce matin, Marc Madiot, Fred Weiss, David Douillet, Christophe Cessu, dans quelques instants, la légende de l'équipe de France de basket qui a été blacklistée pour les Jeux Olympiques de Paris, Sandrine Gruda qui ne digère pas. Une légende doit-elle être récompensée? Ce sera la seconde dans quelques instants. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Et puis 11h45, les GG contre-attaquent. Vous avez fait 4 propositions de débat ce matin, mais GG, à la dernière place, dommage, j'y croyais, Pogacar doit-il être gentil? C'est la proposition de Marc Madiot. 12% pour toi, Marc.
Pardon?
Oui, seulement 12%.
Ah, je n'ai pas été.
Ouais, là, tu pars de loin. Hein. Ouais, je te cache pas que.
Pour l'élection à la mairie de Laval, c'est mal barré quand même.
La proposition de Fred Weiss sur les joueurs naturalisés pour les JO dans l'optique du basket, hein, du tournoi olympique, avec pourquoi pas un meneur naturalisé. Bon, bah, c'est 3e, 25%.
Bah, c'est pour l'instant. 25% pour un 3e.
27% pour David Douillet, 2e. Et l'Arabie Saoudite, est-ce que l'Arabie Saoudite peut vraiment tout acheter? 2e.
Ça m'est pas arrivé souvent. Imagine quand il va savoir utiliser un ordinateur et faire du montage, là il va gagner.
Ouais, mais je vais t'exploser, Christophe. J'en ai marre de tes reportages que tu bidouilles le soir, pars dans ta chambre tout seul, pour nous niquer le lendemain. C'est pas possible.
Attention, les copains, le langage, attention. 36% pour l'instant pour Christophe Cessieux. Bah,
moi,
qui veut nous raconter.
J'ai ma team derrière moi aussi. Hein.
L'histoire entre Maestri et Alaphilippe, et Maestri qui était aux anges comme un gamin avec Julien Alaphilippe. Tu veux nous raconter cette histoire? Si on a parlé de Julien Alaphilippe, ça n'a rien à voir.
Je veux la raconter et je veux surtout que vous écoutiez ce témoignage qui est complètement dingue.
Ton montage, quoi. Tu veux qu'on écoute
pour l'instant.
Exactement.
Pour l'instant, tu gagnes. Mais vous pouvez encore voter sur le compte.
Vous pouvez encore voter pour mettre encore plus une route aux autres.
J'ai pas entendu le pourcentage de Christophe, c'est quoi?
36.
Contre eux. Et moi j'ai combien? 27, c'est ça?
27.
Oh là là.
Mais non, c'est pas loin. Votez... C'est pas loin.
Mais ouais, tu parles 10 points. Votez pour moi, franchement. C'est l'avenir du sport qui est en jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, on va tout regarder en décalage avec l'Arabie Saoudite. C'est pas
David,
possible.
En campagne, c'est juste pas possible. Ça nous rappelle de grands moments. Ah oui. Bravo, mon cher David.
Oui, merci.
Allez, on va débuter cette citation avec Christine de Suède, qui a dit un jour: la récompense du mérite est le mérite même.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Sandrine Gruda devient officiellement la meilleure scoreuse de l'histoire de l'équipe de France. Elle écrit encore plus sa légende.
Et oui, je m'en fous.
Ça fait partie des 10 meilleures choses mondiales, très sincèrement. Hein. Elle est hyper dominante en France, mais elle est hyper dominante dans le monde.
Ah ben moi aussi, je m'en fous de ça.
C'est une joueuse extrêmement complète, une des meilleures joueuses du monde à son poste.
M'en fous.
Elle ne va jamais rien lâcher dans n'importe quelle situation. Pour moi, c'est vraiment son mental qui m'impressionne le plus.
C'est le train-train, la routine. Ça t'impressionne plus, hein, ça.
Oh. Peut-être que la France n'a pas la notion de la joueuse exceptionnelle qu'elle est.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Je pense que le public français, les fans, tout ça, n'ont pas pris l'ampleur de la qualité de joueuse qu'elle est et de l'impact qu'elle a dans le basket.
T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Où t'es?
À la maison. À la maison.
Eh oui, à la maison. Là, bravo les copains.
Moi,
la légende de l'équipe de France de basket féminin ne participera pas aux Jeux Olympiques. Sandrine Gruda n'a pas été sélectionnée par Jean-Aimé Toupane malgré une liste élargie dévoilée jeudi. À 36 ans, la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus ne comprend pas cette décision. Elle qui a toujours priorisé le maillot de l'équipe de France internationale depuis 2006, 225 sélections, championne d'Europe en 2009, vice-championne olympique en 2012, médaillée de bronze en 2021. Sandrine Gruda va donc manquer l'événement de sa fin de carrière. La musique qui fout les jetons. Et cette question, une légende, doit-elle être récompensée? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Marc Madio.
Non.
David Douillet.
Mais non, non, jamais.
Christophe Cessieux.
Non, mais elle doit être respectée.
Il y a des choses à dire. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket, Arnaud Valadon. Bonjour Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Alors pourquoi Sandrine Gruda a été snobée ?
Sportivement, le choix de Jean-Aimé Toupane peut se comprendre. Gruda a beaucoup été blessée. Elle a manqué 50% des matchs avec l'ASVEL pour un rendement de 8 points, 5 rebonds cette saison. Des chiffres loin de ses standards habituels. Depuis 2022, la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleus n'a joué qu'un tiers des matchs possibles en sélection à cause des blessures. Jean-Aimé Toupane.
Sandrine est une joueuse exceptionnelle qui a toujours porté le maillot d'équipe de France avec beaucoup d'engagement. C'est vrai que ça n'a pas été une décision facile pour moi. On a essayé en tout cas de respecter la joueuse. J'ai rencontré Sandrine effectivement. On a eu à échanger beaucoup par rapport au projet, en tout cas sur ces jeux. Je le sais depuis 2 ans que c'était quand même un événement important pour elle. Mais malheureusement, en tout cas, par rapport à ma position, j'ai fait des choix sur la performance.
Gruda réagit sur le site Basket Europe. Elle dit être toujours sous le choc. Elle dévoile les coulisses de cette annonce. Ironie de l'histoire, c'est dans le restaurant de la gare de Lyon, le Train Bleu, que Toupane lui a annoncé la nouvelle. La joueuse révèle avoir été en état de sidération, n'entendant plus, ne comprenant plus ce qu'il se passait durant les 10 minutes d'entretien. Aujourd'hui, une scène remonte à la surface. En 2023, la France perd en demi-finale de l'Euro face à la Belgique. Au micro du diffuseur beIN Sport à chaud, Gruda remettait en cause le sélectionneur après la défaite.
Je pense que nous tous, à nos niveaux, on peut vraiment faire mieux. Sélectionneur y compris. Donc voilà, c'est juste ça que je peux dire.
L'intérieur s'était excusé dans une vidéo quelques jours plus tard. Toupane a dit hier que cela n'avait pas compté. Après 255 sélections, Gruda, première capitaine du sélectionneur, ne figure pas dans une liste élargie puisque 18 joueuses sont convoquées pour 12 places au final.
Merci Arnaud Valadon pour ces précisions et c'était important de se remémorer ce son il y a un an lors de l'Euro de basket. Une légende doit-elle être récompensée ? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Oui, j'ai qu'un seul oui. Fred Weiss, pourquoi oui ?
Ben elle doit être récompensée tout simplement parce qu'elle a travaillé dur pour arriver où elle en est arrivée. Et c'est pas parce qu'il y a une saison qui est plus compliquée, c'est pas parce qu'elle est blessée un petit peu, c'est pas parce qu'elle vieillit qu'on ne doit pas lui laisser sa chance. Alors quand je parle de récompenser, j'imagine que mes collègues vont être d'accord avec moi. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut absolument la sélectionner, mais on est sur une liste élargie. Prends-la, vois ce que ça donne. Elle l'a gagné le droit avec sa carrière, avec ce qu'elle a accompli, le droit d'au moins de tenter sa chance. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement comment elle va récupérer, on ne sait pas dans quel état elle est exactement, sauf que c'est une légende. Elle a été le porte-étendard de cette équipe nationale depuis tant d'années. Son palmarès est long comme le bras, c'est la meilleure scoreuse de l'histoire du basket français. Laisse-lui la chance de tenter le coup, au moins. Je ne dis pas encore une fois, peut-être qu'il ne faut pas la prendre, peut-être qu'il va se rendre compte pendant les stages de préparation aux Jeux Olympiques qu'elle n'est pas dans le coup et qu'il ne faut pas la prendre. Et dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de problème, c'est la performance qui prime. Évidemment, c'est une liste élargie. Laisse-lui la chance de montrer ce qu'elle a dans le ventre encore, et je pense qu'elle en a encore un peu.
Oh, j'aimerais pas être à ta place, hein. Parce que là, tu vas te prendre David Douillet et Marc Madio sur On n'est pas à l'école des fans, ça va pas traîner. Hein. Marc Madio.
Moi, je suis pas un grand spécialiste du basket, mais il est clair que...
Mais on élargit le débat. Hein.
Oui, on élargit le débat. Si on regarde factuellement la situation, on sait que c'est une des lois du sport, qu'à un moment, on prend une place et à un moment, on se fait prendre sa place. C'est comme ça, c'est la loi, c'est la vie du monde du sport et... c'est la compétition, donc moi je me mets aussi à la place du sélectionneur-entraîneur. Je pense qu'il a voulu régler de manière définitive ce problème largement en amont des JO. Il n'a pas voulu attendre le dernier moment pour le faire, et on peut le comprendre. À partir du moment où les gens sont en stage, ils sont regroupés, et s'il a toujours ce problème à réguler au sein de sa sélection, ça lui complique la vie et ça met en danger et en péril
c'est
devenir.
C'est un problème. En fait, c'est simple. La réalité du terrain doit primer. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Elle n'est pas performante.
Oui, mais
elle n'est pas conservée.
En règle, le problème maintenant, il s'enlève une épine du pied pour un peu plus loin.
Pour moi, elle s'est gagnée le droit d'être là, de tenter sa chance. Encore une fois, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut respecter les gens. Le droit de tenter sa chance.
Okay. Mais je pense que ça n'empêche pas le respect. Il fallait la prendre.
Ben, en lice élargie, oui.
Je pense que tout dépend de la nature de l'échange qu'il a pu avoir avec elle. Et là, on n'était pas présents ni les uns ni les autres.
Non, mais selon les informations et les échos qui remontent, ça s'est pas très très bien passé.
Bon.
Ça a duré, ça a été assez bref.
10 minutes douche comprise.
Oui.
Comme disait Chirac.
Exactement. Donc ça a été très dur à entendre pour elle, mais peut-être qu'elle n'était pas en mesure aussi d'avoir une discussion
je
avec lui.
J'ai vécu ce genre de soucis et de difficultés avec Arnaud Desmarres l'année dernière.
Ah, c'est vrai.
Raconte-nous.
c'est forcément moi, Demar, c'est un des meilleurs coureurs que j'ai jamais eu, qui a longtemps apporté beaucoup de résultats à l'équipe, mais tu te retrouves à un moment confronté à une situation où tu dois faire un choix et un arbitrage. Alors c'est sûr que quand tu es la victime de cet arbitrage, c'est toujours difficile à comprendre et à entendre. Je l'entends, je veux bien l'admettre, mais à un moment, il faut quand même prendre une décision et faire un choix.
Oui, mais faire un choix pour un cut. Non, c'est-à-dire que pour envoyer les 12, il faut faire un choix, effectivement. Quand tu as une liste de 18 pros, ne pas mettre 19, tout simplement, et lui dire, OK, avec tout ce que tu as accompli...
Tu déplaces le problème dans le temps.
Mais non, parce que justement, encore une fois, c'est les performances qui doivent primer. Et les performances, c'est facile
à
voir.
Mais peut-être que tu la vois en prépa. Tu vois si elle est capable, si elle est meilleure que les autres intérieurs qui ont été appelés. Exactement. Et puis voilà, et tu fais une compétition interne.
Exact. Il y a une vraie compétition, et au contraire, c'est sain. Et justement, tu discutes avec elle, tu la prépares un peu.
C'est sain, et je vais laisser la parole à David. C'est sain, mais ce que veut dire Marc, c'est quelque part, tu déplaces le problème, ça c'est vrai. Et après, Sandrine Gruda, qui est quand même adorée par l'ensemble de ses coéquipières, ou en tout cas, on sait que c'est une fille qui compte et qui a compté, donc elle est à minima respectée. Si elle n'est pas adorée, bah ça peut jouer après dans sa décision, parce qu'elle peut faire aussi du lobbying,
c'est le terrain qui parle en stage avec ses coéquipières, et là tout le monde peut se faire une véritable idée de sa valeur, de ses qualités.
Quand même, en stage d'avoir quelqu'un qui a une telle place, une telle présence,
elles ont temps de voir venir, il y a 18 joueuses, donc forcément il y en a 6 qui vont être coupées, donc pourquoi pas 7 au pire.
Oui,
si ça se trouve, ça aurait été la meilleure pendant cette préparation.
Je pense qu'il faudrait avoir les vraies raisons, parce que là, après, on est dans le politique.
T'as entendu, elle a quand même balancé sur le sélectionneur.
Oui, elle a balancé sur le sélectionneur, et le sélectionneur, lui, il est dans son rôle de sélectionneur. Donc, on n'a pas la vraie version, si je puis me permettre, du sélectionneur. Donc, lui, il a sûrement aussi ses raisons pour lesquelles il a agi ainsi.
Une légende doit-elle être récompensée? C'est notre débat. David Douillet.
Non, c'est toujours les femmes, là en particulier les plus en forme du moment, qui doivent être sélectionnées. Et c'est la loi. Sandrine, elle connaît ça par cœur, elle le sait au plus profond d'elle. Mais je comprends qu'elle estime qu'elle est encore performante et qu'elle a
quelque chose
à donner. Et c'est normal. Et c'est une réaction de grande championne qui est là d'être complètement courroucée par rapport à cette décision. Après, je suis d'accord avec Marc. Il y a peut-être une deuxième, une troisième, une quatrième lecture qui n'est pas affichée, qui ne sera peut-être jamais dite et qui peut-être est là, qui plane au-dessus de tout ça, de cette grande décision. Parce que quand on est une joueuse comme elle, et forcément, elle a une influence sur toutes les autres. Et cette influence-là peut venir en contradiction par rapport à un sélectionneur, à un coach. Et donc ça peut poser un vrai problème. Donc, à la fois, tu as deux problèmes. Tu as une joueuse qui l'a montré, qui est pas au meilleur de sa forme, qui est en fin de carrière, et qui a montré que...
Qui a été blessée.
Qui a été blessée.
Mais il y a dans ces 18, une joueuse qui n'a quasiment pas joué, qui s'est blessée aussi quasiment toute l'année, sauf qu'elle y est. Donc à un moment,
s'il y a
deux poids deux mesures, David, c'est pas possible en fait.
Je pense qu'il y a pas deux poids deux mesures, mais moi je te parle de la lecture qu'on nous a pas affichée, et peut-être qu'elle n'existe pas, mais moi je la suppose. Je me dis que il a fait ce choix, comme le dit très justement Marc, il s'est débarrassé d'un problème. Il s'est débarrassé d'un problème d'une joueuse très influente sur le groupe, qui vient en concurrence par rapport à son autorité propre, lui le sélectionneur, et une joueuse qui est en déclin, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et qui aujourd'hui ne mérite pas forcément sa place. Donc, à l'affichage, il décide de régler le problème tout de suite et de partir sur un groupe, entre guillemets, neuf, qu'il va amener jusqu'aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est un choix qui revêt une espèce de logique et qui est plutôt normal. Mais sur le fond du sujet, est-ce qu'on doit gratifier une légende d'une place en or d'un fauteuil toujours assuré? Moi, je dis non. Ça, c'est à l'encontre de l'esprit du sport et de la compétition. Et tu le sais bien, Fred.
À l'encontre de l'esprit du sport, tout de même, parce que c'est le débat qui nous rassemble. Oui, il y a le cas Sandrine Gruda, mais c'est ce que je disais à Marc. On peut l'élargir. Est-ce qu'à un moment donné, un grand champion sur un événement aussi important pour la France, aussi important pour la carrière de quelqu'un qui a donné, j'ai envie de faire le parallèle, et peut-être que Fred va me reprendre de voler, mais c'est un peu comme si Tony Parker, en fin de carrière, pas une très bonne saison, assez souvent blessé, on lui dit « Coco, non, tu vas pas faire les JO ». imaginer la déflagration.
Non, mais c'est hyper dur. Mais là, c'est pour ça que je vais rebondir sur ce que vient de dire David. Il dit, il se s'enlève un problème. Ben non. En fait, si c'est les performances qui priment, le problème, il se trouvait par lui-même, en fait. C'est-à-dire que, en gros, les gens vont voir que Sandrine Gruda n'est pas au niveau et personne va lui tomber dessus. Et pour Tony Parker, c'est pareil. Moi, je me rappelle de 2016, justement, où nous, on appelle ça la tournée d'adieu des Beatles pour l'équipe de France de basket, parce que t'as amené tous les vieux et c'est un mauvais choix. Moi, je pense qu'il faut faire ce qui va se passer maintenant avec l'équipe de France masculine. C'est-à-dire qu'il y a des anciens, il y a des nouveaux, et les meilleurs vont être sélectionnés. Et je pense que tous les anciens sont d'accord avec ça, et au contraire, ils l'ont demandé. Mais au moins, avoir sa chance de pouvoir lutter. Là, elle n'a pas sa chance de lutter, et c'est ce qui me dérange. En plus, j'aurais aimé Toupane, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais là, je trouve que c'est une erreur stratégique.
Mais Fred, Sandrine Gruba, pour toi, c'est la meilleure du moment à son poste, en France.
Alors, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les performances à l'instant T, tu le sais très bien, surtout dans le sport que tu as pratiqué, et pour les Jeux Olympiques, les performances à l'instant T sont plus importantes que les performances d'une saison. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de savoir si, pour quand tu pars au jeu, tu as les joueuses et les joueurs les plus performants à l'instant T. On s'en fout qu'elle ait fait une saison pourrie, on s'en fout qu'elle ait pas beaucoup joué. L'important, c'est de savoir si elle sera performante là. La preuve, le cas Evan Fournier, par exemple.
Moi, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène important qu'il faut prendre en compte et que personne ne dit et que personne n'osera dire parmi les présélectionnés. C'est que cette joueuse en moins, c'est une place de gagner pour les autres. Donc,
elle prend la place de quelqu'un, oui.
Le cheminement à l'intérieur du groupe fait que ceux qui sont présélectionnés se disent on a gagné une place.
C'est faux, Marc, en fait. C'est encore une fois, c'est faux. Parce que si tu prends 18, t'en prends 19,
oui,
c'est pareil, parce qu'à la fin, t'en auras 12.
Et pourquoi, autant trancher le sujet maintenant.
Mais non, parce que si ça se trouve, elle aurait été performante. En fait, c'est ça que
si elle avait été performante, tu remettais encore une difficulté.
Vous n'êtes pas d'accord sur l'idée de passe-droit, de cadeau pour une carrière.
Ouais, non. Franchement, il ne faut pas.
Ça, c'est pas possible.
Pas de passe-droit.
C'est un petit cadeau, hein. C'est un tout petit cadeau, c'est-à-dire qu'en gros, t'as le droit de
montrer quelle que soit la fête, quel que soit le vécu.
Il
n'y
a pas un risque, Fred, qu'elle déstabilise. Imaginons qu'il la sélectionne dans sa liste élargie. Imaginons qu'effectivement qu'il constate que ce soit un constat criant, qu'elle ne soit pas dans les clous. Donc, il doit l'exfiltrer. T'imagines le risque pour la déstabilisation et la construction de l'équipe future?
Non mais attends, je pense que tu ne respectes pas suffisamment le mental de ces joueuses et de ces joueurs. On est habitué à ce qu'il y ait des joueurs coupés, c'est normal, c'est habituel. Donc que ça soit Gruda ou n'importe qui, au contraire, je pense qu'ils gagneraient en respect en montrant okay, elle n'est pas au niveau, elle n'est pas là. Et voilà.
Bertrand nous appelle au 32-16, il veut témoigner dans ce débat. Une légende doit-elle être récompensée? Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
J'entends les différents arguments sportifs. Je suis moi-même sportif à un niveau basketteur, à mon petit niveau. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi souligner. Derrière les sportifs, il y a aussi des êtres humains. Il y a aussi une personne. Il y a qui a, comme dit peut dire Fred, qui a mérité le droit au moins d'être sur cette liste élargie. Et pour l'exfiltrer, s'il y avait besoin de l'exfiltrer parce qu'elle n'était pas performante, c'est très 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 facile. Il y a des matchs amicaux. Ouais, on fait sur un match amical, on annonce sa blessure, machin, autre, tout ça, ovationné par le public. Il y a des moyens possibles pour l'exfiltrer si on se constate qu'elle n'est pas performante. On peut faire ça, on peut mettre un peu d'humain là-dedans. On n'a pas dit qu'on va à enlever cette partie sportive. Non, tu la mets dedans, elle fait partie du groupe parce qu'elle a mérité. Mais on parle de Gruda, quoi, en termes de mental, en termes de personnalité, en termes de sportif. Hein. Voilà, j'ai la chance de la croiser sur quelques compétitions. Oui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup et tout. Donc, c'est incompréhensible. Moi, j'en veux au staff. J'en veux au staff parce que le staff, j'ai l'impression qu'il y a petite polémique, il y a toujours des petites histoires. À quel moment on va avoir un peu de sérénité pour arriver à avancer chez les filles? On avait cette sérénité du jeu, du groupe.
Ouais, et là, enfin, Bertrand, le haut niveau, c'est pas la calinothérapie, on n'est pas.
Non, on fait pas de la calinothérapie.
Le haut niveau, c'est extrêmement brutal, tu vois. À un moment donné, c'est reculer le problème, parce que si elle est pas en forme, elle est pas en forme. Et si elle est pas.
Mais si elle est en forme, donc, en fait, tu parles du postulat qu'elle est pas en forme, David. Qu'est-ce que tu en sais?
Donne-moi ce pourcentage, Fred. Non, mais, franchement. Non, mais juste, honnêtement, donne-moi ce pourcentage. Donne-moi ce pourcentage pour toi, là, aujourd'hui, maintenant. Donne-moi ce pourcentage de, elle est en capacité d'être, de faire partie du 5 majeur, aux Jeux Olympiques.
Non, mais on est en train de parler de faire partie d'une liste élargie à 19. Mais, oui, et là, tu parles d'un 5 majeur. Mais, ça n'a rien à voir.
Oui, mais peut-être qu'une légende, bah, ça joue. Regardez Thierry Henry, ce qui s'est passé en 2010. Thierry Henry devait avoir ce côté, on épaule les plus jeunes. Et au final, légende de l'équipe de France, il se retrouve sur le banc à ne pas jouer. Ça finit avec l'histoire de bus où il ne raisonne personne. Et au final, ça devient un caillou dans la chaussure de Raymond Domenech. Je dis pas que c'est les mêmes histoires. Je dis juste que les gens, ça joue ou pas.
Il y a des contre-exemples aussi, où justement, c'est les gens qui ont servi de grands frères, qu'ils ont accompagnés, etc. Donc ça dépend. Il faut avoir une discussion avec elles. Peut-être que c'est la discussion qu'ils ont eue et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Hein. Mais si cette discussion n'a pas eu lieu, je trouve que c'est dommage de pas la tester.
Ok. Bon, on a compris votre sentiment. Merci beaucoup à Bertrand d'avoir débattu avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin autour de ce sujet. D'ailleurs, toutes les informations sur les sélections, hein, hommes, femmes, du basket, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Le débat caché dans quelques instants. Forcément, ça va vous plaire. C'est sûr, ça va vous plaire. Vous aurez des choses à dire. Mais à tout de suite sur RMC.
T'es d'accord avec toi-même alors?
Oui, je suis d'accord avec moi-même. Bon, ça tombe bien parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, heureusement, hein, d'ailleurs. Hein. Allez, à tout de suite sur RMC. Et vous allez être d'accord avec moi.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, David Douillet, Marc Madio, Fred Weiss. Restez bien avec nous dans 10 minutes. Les GG contre-attaque, mais GG, vous avez proposé 4 débats ce matin. Un seul sera l'élu, un seul sera choisi. Et c'est redevenu très serré. Aïe, 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 aïe,
David est revenu dans le game.
C'est du 33 contre 31% pour toi, David.
Ah, si vous avez envie d'entendre les Saoudiens au pouvoir, votez Douillet, quoi.
Mais oui, il y a un nuage sombre qui plane.
Mais oui, David,
il y a un nuage sombre qui plane sur le sport mondial.
Il veut la gagne.
Il va faire du Saoudi bashing, alors c'est ça?
33%, 31%, c'est extrêmement serré. Allez voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Vous avez encore 10 minutes, mais pour l'heure, le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien à l'heure actuelle, et pourtant, elles vont devoir débattre. Tout vous dire. Le guet-apens du jour. Ça pourrait peut-être faire plaisir à David. Le guet-apens du jour. C'est ça. The heavyweight championship of the world is on the line. Deontay Wilder putting his crown up for grabs. A big right hand by Fury landing it caught Wilder. Oh my goodness. Wow. Wow. Et oui, c'est l'un des combats les plus attendus de ces dernières années. Tyson Fury et Alexander Usyk vont s'affronter ce soir à Riyad, en Arabie Saoudite, pour unifier les 4 ceintures WBA, WBO, IBF et WBC. Le dernier poids lourd à avoir unifié les titres mondiaux n'est autre que Lennox Lewis en 1999. Rappelons que ces deux boxeurs n'ont jamais perdu en carrière. Usyk, c'est 21 victoires en 21 combats. L'Ukrainien détient 3 ceintures. Fury, 34 victoires, 1 nul en 35 combats. Le Britannique détient une ceinture. Ces grands combats de boxe vous font-ils encore rêver? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bien sûr.
Bien sûr que oui.
Bien sûr que ça me fait encore rêver.
Fred Weiss.
Un peu moins.
Un peu moins.
Un peu moins.
David Douillet.
Oui, 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 évidemment.
Marc Madio.
Oui.
Ok, j'ai 3 oui. J'en ai un qui est un peu moins convaincu. Tu veux commencer ou pas?
Oui, pourquoi pas.
Vas-y, Fred Weiss.
Non, mais je suis pas très au fait de la boxe, et c'est vrai que moi j'aimais bien quand il y avait des méga superstars, des athlètes. Alors Fury, déjà quand je le vois, j'ai pas toujours l'impression que c'est un athlète.
Quel boxeur,
évidemment.
Quel boxeur.
Mais je sais pas si tu as vu ce.
Ah, il est pas sculpté comme les grands poids lourds.
C'est surprenant.
Un peu plus.
Et il est beaucoup plus affûté, effectivement, pour ce combat. On l'a vu. Moi, j'ai vu surtout son papa qui était un boxeur de rue, quelqu'un de plutôt très dangereux.
Ah ben oui, il avait une nucléer un adversaire quand même dans, dans la rue un jour.
Ouais, ouais, c'était quelqu'un de très dangereux.
Il a encore fait parler de lui. Hein,
ouais, il a mis un coup de boule à
quelqu'un plutôt très violent. Et concrètement, ça m'intéresse un petit peu moins parce que pour moi, ils me font moins rêver. C'est moins dans ce que j'ai envie de voir. Je sais pas, la boxe me fait moins rêver en règle générale, surtout sur les poids lourds, parce que ça bouge moins, parce que ça donne toujours des coups, mais ça bouge moins. Je préfère des poids un peu plus légers, entre guillemets, où ça bouge plus,
franchement, par rapport à leur poids, les mecs bougent beaucoup. Non,
mais bien sûr. Pour leur poids. Mais concrètement, par rapport à
des poids plus. Il est moins grand, il est moins lourd.
Fury, il fait 2-6, il se déplace comme un léger, je suis désolé.
Ben, moi, je suis désolé.
Incroyable.
Je suis désolé, les gars, mais moi, c'est mon opinion. Donc, mon opinion.
Je préfère les super mouches.
Voilà, je préfère les. Non, peut-être pas les super mouches, mais ouais, j'aime les catégories un peu inférieures.
Alors, moi, j'adore toujours autant ces combats, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, quoi. Pour tout vous dire, j'ai découvert qu'il y avait ce combat hier en lisant L'Équipe. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce combat entre Usyk et Fury. Il est passé complètement inaperçu. Alors qu'avant, rappelez-vous, quand il y avait les Tyson, ou évidemment avant, quand il y avait les Mohamed Ali, on en parlait pendant un mois, pendant deux mois. On suivait quasiment la préparation des athlètes au jour le jour. Et puis ces combats se déroulaient à Las Vegas. Là, ça va se dérouler en Arabie Saoudite. Ça donne pas envie
Merci,
d'aller voir
Christophe.
Les combats là-bas. Tu vois, je suis en train de faire ta contre-attaque. Merci. Comme ça, t'auras pas me
besoin de la
faire tout à l'heure. Tu vois? Non, mais franchement, il y avait tout un côté autour de ces combats à poids lourds.
Ça sentait les gens.
Oui, mais sans doute. Mais après, j'ai quand même envie de voir le combat, moi, parce que ce Fury dont tu parles, c'est quand même un phénomène.
Ah, mais c'est un phénomène.
Franchement,
évidemment.
C'est un phénomène, ce garçon. C'est un super grand boxeur. Il a une science de la boxe énorme pour un boxeur poids lourd. Et c'est vrai que tout le monde se moquait de lui parce qu'il est un peu gras du bide il y a quelques années. Mais quand tu le vois sur un ring,
c'est un boxeur fantastique. Tu sais quel est le principal problème de la boxe ? C'est le MMA. Le MMA qui a pris une ampleur énorme, et c'est vrai que de plus en plus on regarde aussi du MMA. Donc il y a une vraie concurrence.
Mais ils font mieux leur promo que la boxe française, et aujourd'hui le combat c'est
pas plus zéro au départ. Le MMA c'était beaucoup moins connu que la boxe,
c'est plus efficace.
Et maintenant
si tu me proposes de regarder un combat de MMA ou un championnat du monde de poids lourd directement, je vais au championnat du monde de poids lourd.
Je pense que
je suis un peu du vieux monde.
Oui, ben là vous avez touché un point crucial, c'est-à-dire que Fury et Usyk sont pas des Américains. Voilà. Et l'organisation, elle est pas américaine. Américains, ils ont le génie, ils ont le don, et Tyson en est un des illustrateurs. Enfin, sa vie, son combat, comme Mohamed Ali, etc., etc. Ils ont le don d'orchestrer tout ce dont vous avez parlé, qui n'existe pas ou peu ou moins bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ils font du marketing, ils en rajoutent, ils étalent la confiture à mort pour que tout le monde entier, soit intéressé. Ce sont pas des Américains. Il n'y a pas d'organisation américaine derrière tout ça. Aujourd'hui, le grand promoteur de la boxe mondiale, c'est l'Arabie Saoudite. Ils ont payé à coup de pétrodollars cette rencontre. Mais la rencontre reste intéressante parce que c'est l'unification, et JC l'a dit tout à l'heure, de tout. Voilà, on va savoir enfin qui est le meilleur des meilleurs des meilleurs en poids lourd. C'est ça qui est sportivement, c'est fabuleux, avec deux combattants hors pair qui n'ont jamais perdu. Donc c'est ça qui est intéressant.
David,
le problème, c'est effectivement, la sauce n'est pas montée.
Demande à des jeunes dans la rue ce qu'ils regardent. Est-ce qu'ils regardent de la boxe ou est-ce qu'ils regardent du MMA? Je peux t'assurer que tu serais très surpris. Et à mon avis, le MMA, c'est à 90% devant.
Mais tu as raison. Mais pourquoi? Parce que les Américains ont mis tous leurs moyens, toute leur qualité de promoteur sur le MMA. Et ils ne s'occupent plus de la boxe.
La boxe est un peu endormie.
La boxe, effectivement, la boxe est endormie. Il n'y a plus de grands promoteurs. Les grands promoteurs aujourd'hui.
Il y a trop de fédérations.
C'est dans le Middle East.
Il y a trop de types de
champions. C'est pas très lisible. Oui, enfin, dans le MMA, excusez-moi, c'est très compliqué. Et puis ils savent monter. Excusez-moi, mais moi je vais dire ce que je pense. Il y a des fabuleux combattants dans le MMA, mais je suis désolé. Ils savent monter la sauce sur des combattants qui sont pas forcément des si on les mettait dans leur discipline respective, qui sont pas forcément les meilleurs des cadors. Voilà, ils sont capables de sublimer. Ils sont capables de sublimer des films de série B en films de série A. Voilà, c'est ça que je veux faire. La métaphore,
il y a du storytelling et ils savent faire monter une histoire, mais les combats sont pas souvent à la hauteur de l'histoire qui est montée. C'est ce que tu veux nous dire.
Exactement.
Mais je vais interroger quelqu'un du vieux monde, cette France, du général de Gaulle. Marc Madiot, toi, t'as encore rêvé ou pas?
Je rêve encore du noblard. Il y avait des, c'était les boxeurs, c'était mythique. Et là, on a quand même deux grands boxeurs qui vont s'affronter. Alors, certes, le packaging et le marketing autour n'est pas à la hauteur de ce que savent faire les Américains. Et Don King n'est plus là. Mais imaginons ces grands combats. Moi, j'ai vu la pesée à la télévision. On sent quand même que ça, c'est quelque chose de particulier. Il va quand même
ça
y avoir
une dynamite. Hein.
Ouais,
c'est
ouais,
parti, on est chaud fouet.
C'est le duel.
Au moment où les deux boxeurs vont rentrer sur le ring, ça va être chaud bouillant. Ça va être impressionnant. Et le Noblard, ça reste le Noblard. C'est quelque chose d'exceptionnel qui rentre dans les légendes. On se rappelle tous de Tyson, de Ali, de Hagler, de Léonard et compagnie.
Ouais, mais il y a des gens qui ont marqué les épisodes. Ça, c'est pour nous. Encore une fois, la nouvelle génération, elle est complètement à côté de ça, à mon avis.
Oui, mais le MMA...
Mais parce qu'on ne lui a pas montré.
Les intéresser un petit peu, parce qu'effectivement, c'est un gros combat. Mais concrètement, la boxe, c'est devenu poussiéreux. Oh, et c'est
non,
ça le problème.
Oui, t'as raison.
Parce que, mais bien sûr, mais parce qu'on ne l'a pas marketé comme il fallait. Ils ont arrêté leur marketing en France.
C'est du combat de rue.
Non, mais c'est pas un jugement de valeur que je suis en train de porter. Je dis juste que par rapport aux jeunes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui plaît?
Oui,
Et après ça, c'est plus compliqué au niveau du sport de combat.
Toi, Christophe, qui suis particulièrement la boxe, Tyson Fury, Alexandre Usyk, il y a un favori sur cette rencontre? Difficile, hein.
Ouais, c'est assez
Usyk qui sort un peu de nulle part. Tyson Fury,
il sort pas de nulle part, mais il a pas encore affronté. Enfin, si, il a quand même affronté les tout meilleurs. Mais c'est un vrai. Je pense que c'est l'un des tests les plus importants de la carrière de Fury, d'affronter Usyk aujourd'hui. Usyk a surpris tout le monde.
Il a pas la
taille, la hauteur d'un poids lourd.
Il y a quand même une différence de taille, hein.
L'allonge sera quand même vraiment l'avantage.
Usyk n'est quand même pas Tyson, soyons réalistes.
Oui, je suis d'accord, mais enfin bon, un petit face à un grand, il a les moyens, il a la diversité technique pour aller cuire Fury sans aucun problème. Voilà, il a pas trois ceintures par hasard, c'est évident. Clair. Donc c'est le grand combat, voilà.
Et puis Fury, il y a tout un côté extra sportif qui est assez hallucinant dans cette histoire, et c'est pour ça qu'on a envie de suivre ce boxeur. Plus que Usyk, qui est un formidable boxeur, mais qui a peut-être moins de choses à côté à raconter, alors que Tyson Fury.
Ouais, Fury qui avait annoncé à un moment qu'il allait prendre sa retraite, qu'il allait boire des caipirinhas dans un resort au Mexique avec des nanas à côté de lui. Voilà, il a ce côté un peu boxeur déjanté.
Déjanté, mais préparé pour ce match.
Oui, il est
vraiment préparé. Il est beaucoup plus affûté. C'est pas du tout le même Fury que d'habitude, hein, quand même.
On rappelle qu'il s'est quand même fait surprendre par Ngannou il n'y a pas longtemps, mais justement, il était pas préparé, le face-à-face
à la pesée était quand même assez impressionnant.
Bah, allez voir ça sur rmcsport.fr d'ailleurs, ce face-à-face de la pesée entre Usyk et Fury.
En revanche, pour voir le combat cette nuit, c'est sur
DAZN.
DAZN, d'accord.
Voilà.
Donc, comment la DAZN, il faut payer.
C'est à 18h, je crois, non?
Il faut payer, monsieur. Non, c'est plus tard.
C'est plus tard, 23h, d'accord.
Exactement.
Et tu peux payer juste pour le combat.
Mais vous pouvez aller sur l'application RMC et on vous commentera le combat.
Ah, d'accord.
Voilà. Ah, voilà. Très bien.
Faire ça. Et si vous voulez tout savoir sur ce combat, sachez qu'il y a le podcast Fighter Club qui est déjà disponible. Spécial Fury face à Usyk. Voilà. J'ai fait l'association des deux, le morphing. 11h45, on se retrouve dans quelques instants. Les GG contre-attaque. Qui a remporté ce duel? On dit quoi pour 4? Ce quatruel? Allez, à tout de suite sur RL.
Ce quatruel.
Vous l'avez compris!
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport à partir de midi. Les paris RMC autour de la dernière journée de Ligue 1. Ça se passera demain. On commencera évidemment à évoquer quelques matchs, notamment la lutte pour l'Europe, pour cette 6e ou 7e place. Surtout, écoutez-nous, car nous avons pas mal de très belles cotes à vous donner. On parlera de Lens, de Lyon, mais également de l'Olympique de Marseille. C'est donc à partir de midi avec toute la Dream Team des paris. Oh, la trompette! C'est la roue RMC, vous le savez, oui, elle est là, la trompette. Jusqu'à 20 000 euros à gagner sur RMC, c'est le moment de vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. À partir de maintenant, 11h48, vous avez 5 minutes. À vous de jouer et bonne chance.
RMC,
Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin, quatre propositions par nos GG. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Votez pour votre débat préféré. Dernière place, ça n'a pas pris. Pogacar doit-il être gentil sur le Giro? Ça n'a pas pris. Marc Madiot, quatrième, 11%.
Je m'incline.
À demain, Marc.
À demain.
On sera là également demain. Oui. Tu seras là, donc à demain.
Tu peux le refourguer
demain. Oui, oui. Doit-il être méchant, peut-être, tante?
Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Ça marche. Ça va
c'est
marcher,
une
ça.
Variante, c'est sûr que ça va marcher.
Ouais, ouais, ouais.
Il voulait parler du basket et de naturalisation pour les Jeux Olympiques. 20% pour toi, mon cher Fred. Troisième.
C'est mieux que Marc, ça va.
C'est mieux que Marc, d'accord. C'est bien mieux que Marc. Bravo, troisième. Deuxième place finalement, 33% pour David Douillet, l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut tout s'acheter? Et on parlait de boxe il y a quelques instants, ça allait avec, évidemment.
Hein. Je me suis battu jusqu'au bout, voilà.
Bravo, bout, mon cher David. 36% pour Maestri et Alaphilippe. L'histoire de la semaine. L'histoire qui sortait les mouchoirs, qui peut peut-être vous faire pleurer. L'histoire racontée par Christophe Cessieux. Christophe, tu as gagné. C'est à toi de jouer.
Alors, on évoquait tout à l'heure la perf de Julien Alaphilippe. Évidemment, c'était joli lors de la 12e étape du Giro. Et je voulais vous faire part d'un coup de cœur. Non pas pour Loulou, ça évidemment, ça tombe sous le sens. C'est l'un de mes coureurs préférés. Et c'est l'un des coureurs préférés, non seulement des Français, mais du peloton international. Mais plutôt pour le garçon qui l'a accompagné durant une longue, très longue partie de la journée. Ce garçon, c'est ce que l'on appelle en termes cyclistes un gregario, un porteur d'eau, un sans-grade du peloton. Un coureur qui, en 10 ans de carrière pro, n'a remporté que 4 petites courses mineures. Une étape du Tour de Chine, le Tour d'Europe, le Grand Prix de Slovénie. Et bien ce garçon, cet Italien, a vécu jeudi la plus belle journée de sa carrière sur un vélo. Alors oui, il n'a pas gagné la course, il n'a terminé qu'à la 9e place, à 1 minute 30 de Julien. Mais pourtant, vous allez l'écouter, vous allez comprendre pourquoi ce jeudi sera à jamais marqué d'une pierre blanche dans sa carrière. Ça a été une journée extraordinaire pour moi. Un moment que je souhaite à tous les jeunes qui débutent le vélo. Alaphilippe et Sagan ont toujours été mes idoles et d'avoir réalisé cet exploit en duo est tout simplement sensationnel. Au début, on nous a pris pour des dingues, mais nous savions que si nous parvenions à nous mettre d'accord, nous pourrions réaliser quelque chose d'extraordinaire. Alaphilippe m'encourageait. À un moment donné, il a même commencé à m'appeler par mon nom, et ça m'a filé la chair de poule. Nous nous encouragions mutuellement. On avait l'impression d'être coéquipiers, de se connaître depuis toujours. Il semblait qu'il me connaissait et que je le connaissais. Quand je suis arrivé, j'ai vu Julien venir vers moi pour me faire un câlin et faire une photo. La fatigue de la journée a disparu d'un coup. C'était magnifique. On avait déjà à plusieurs reprises fait des courses dans le même peloton, mais j'avais jamais eu le courage de lui demander une photo. C'était impossible. Et là, l'impossible est devenu réalité. Ce sont des émotions qui m'accompagneront pour le reste de ma vie. Voilà, je sais pas si vous avez été touché par son témoignage, mais moi, franchement, ça m'a filé la banane. On évoquait il y a quelques jours l'admiration d'un joueur de tennis pour Rafael Nadal, qui à l'issue d'un match à Madrid était allé lui demander son t-shirt ou un souvenir pour marquer le coup. Mirko Maestri, lui, il avait jamais osé demander à Julien de prendre une photo avec lui. Et c'est le Français lui-même qui est venu le voir une fois la course terminée pour remercier ce compagnon d'un jour sans lequel il n'aurait jamais remporté cette course. Et ça a été magique pour Maestri. Se voir félicité, remercié par son idole. Je crois qu'il est difficile de trouver un plus bel hommage pour un sportif ou même dans la vie de tous les jours. Alors on va pas faire un débat là-dessus, mais moi je voulais juste à mon tour rendre hommage à ce garçon, à ce porteur d'eau, cette caste indispensable du cyclisme. On les met pas très souvent dans les lumières et ce matin j'avais aussi envie de lui rendre hommage à Mirko.
Eh bien bravo mon cher Christophe Cessieux, mais forcément ça peut faire réagir nos GG, parce que oui, il a vécu une belle journée, mais c'est vrai que il a peut-être fait le travail pour Alaphilippe. Et je sais que toi Marc, en tant que patron d'écurie, quand t'es dans une course, quoi. On n'est pas là pour admirer ses idoles. C'est quoi ton regard sur cette histoire?
Mon regard, c'est Christophe, tu as gagné et tu méritais de gagner et tu nous as retranscrit ce qui s'est passé de manière extraordinaire.
Ok.
Si Marc.
Mais ton point de vue quand même sur cette histoire, non?
Non, franchement.
C'est ton coureur. Tu
alors
dis,
dans un premier temps, j'aurais eu peut-être un peu les boules. T'as été trop gentil. Enfin, tu tombes dans le piège. Et là, la façon dont le coureur s'exprime et la façon dont toi, Christophe, tu nous as retranscrit la situation, je m'incline merci, bravo, c'est ça le vélo.
Ok, donc on peut dire à Maestri que s'il avait été dans l'équipe de Marc Madieu, il aurait pris une belle volée
non.
Le soir de la course, mais que 3-4 jours après...
Il a fait son métier de coureur, il y a plus lui aussi. Non, alors évidemment, il est un cran ou deux crans en dessous de la Philippe et dans le dernier radar, quand Julien a accéléré...
C'était clair depuis 50 bornes, moins.
Non, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'effectivement, c'est le même sport, mais c'est pas la même constellation. Concrètement, c'est difficile pour certains de se rendre compte que on peut idolâtrer quelqu'un alors qu'on court à côté de lui. C'est assez fantastique. Et honnêtement, je pense que si j'avais joué avec Michael Jordan, je vous le raconterais encore.
Bah oui. Donc
je comprends tout à fait ce sentiment là.
Ok, t'es en train de comparer Jordan à Alaphilippe là.
Et moi,
non, mais si c'est son idole, je comprends.
C'est une vanne.
Moi, j'ai connu l'époque où être coureur cycliste c'était un art de vivre, et ce brave coureur italien me rappelle cette belle époque.
Ok, donc ça te donne la banane également.
Ouais.
David Douillet.
Ça me rassure.
Moi, je ne sais pas si vous rendez compte, mais on a l'immense honneur d'être à côté du Jordan DGG, Monsieur Christophe Cessieux.
Voilà.
Et il a tout compris du sport. Franchement, moi, je t'admire. Et la prochaine fois qu'on se voit, je veux que tu me dédicaces un t-shirt. Un de tes t-shirts que tu auras rapporté.
Tu sais que je vais faire un C'était mieux avant sur toi, David, quand même. Il est en préparation, là. Hein.
Ah bon, oh merde. Ah ben, je savais pas. Tu vois, je te sers pas les golasses. Parce que franchement, j'ai des cours à prendre. Et tes leçons de montage, je vais venir les prendre. Tes axes. Le ton que tu as pendant ta narration, tout est parfait. Non, j'y sais, je suis très sérieux, je te promets.
Et si chacun peut demander un truc, j'aimerais me battre avec David Douillet, moi, mais est-ce que si c'est possible? Bah oui.
C'est possible. C'est très facile.
Bah, on va organiser ça pendant les JO. Un combat David Douillet.
Ah ouais. Dans sa discipline.
Bon, bravo en tout cas.
Oh là.
Bravo Christophe d'avoir remporté
ce GG. Non, mais franchement, c'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est du grand art, Christophe.
Bon, bah voilà, tout le monde était très heureux que tu nous racontes cette histoire. C'est parfait. Si tout le monde est heureux, je suis heureux, mes GG. On se retrouve demain à partir de 9h30. Merci beaucoup, Marc Madiot, David Douillet, Fred Weiss et Christophe Cessieux. Une émission déjà à retrouver, évidemment, en podcast. Merci beaucoup à Maxime Abolin, notre producteur, Alban Azaïs, à la réalisation. 11h55, restez bien avec nous. Les Paris RMC dans quelques instants. La 34e et dernière journée de Ligue 1, on va tout vous dire, on va vous donner les meilleures cotes, évidemment. Allez, à tout de suite.